Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre des artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, c'est avec Johan Bourgeois.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre avec Johan Bourgeois.
Ces jours où des corps vont, cherchant chacun son dépeupleur, assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut, pour l'harmonie. Ainsi commence le Dépeupleur, texte de Samuel Beckett, publié en 1970. Johan Bourgeois, dans votre spectacle Celui qui tombe, six corps vont et circulent sur toutes les dimensions d'un espace délimité à la précision mathématique, un carré de bois de 6 mètres sur 6 qui lui-même se déplace. Les corps marchent, ils courent, ils tombent, ils se relèvent et réagissent au mouvement du plateau, dans une danse qui dit le jeu, la chute, le risque comme autant de possibilités à épuiser et de possibilités à refaire. Bonsoir Johan Bourgeois.
Bonsoir.
Celui qui tombe, votre spectacle qui est créé à l'origine en 2014 et repris au 104 à partir de demain, le 28 décembre et jusqu'au 11 janvier. Bonsoir et bienvenue.
Merci.
Je vous propose qu'on commence par écouter la voix de Maggie Marin.
Le quotidien, la répétition, ça va très vite pour que les choses se perdent, enfin le sens de ce qu'on fait, la vitalité de ce qu'on fait se perdent. Et donc, quand on refait, c'est pour mesurer la distance, le travail qui est encore à faire pour atteindre une certaine densité, une intensité vitale qui se transmet aussi à celui qui regarde. Je sais pas, je pense par exemple, c'est un peu comme un travail d'artisan aussi. Un artisan, il refait le geste et le geste doit être le moins, comment dire, avec le moins de parasites possible, le plus simple possible, de façon à obtenir quelque chose d'assez. On est très encombré tout le temps, constamment. Nous, les artistes en particulier, les acteurs, les danseurs, très encombrés par nous-mêmes. Donc beaucoup de travail et ça serait d'épurer en fait, d'épurer, de dépouiller ce qu'on est en train de faire pour lui redonner son sens initial, enfin je dirais comme quelque chose comme ça.
Johan Bourgeois, c'est la voix de Maggie Marin qui était venue à Par les temps qui courent en 2018. Elle parle de la répétition et du fait de refaire dans le travail. Est-ce que vous diriez que Celui qui tombe, c'est un spectacle que vous avez passé votre temps à refaire?
Oui, je pourrais dire ça, tout à fait, mais comme la plupart de mes spectacles d'ailleurs, puisque ce sont des spectacles qui s'inscrivent dans la durée, et, je m'inscris complètement dans cette vision artisanale de l'art. Il faut tellement de temps pour incorporer des gestes, je le sais bien parce que je viens des arts du cirque et parfois on passe des années pour construire quelques minutes. Pour pouvoir être suffisamment simple et sans volonté pour que le mouvement puisse passer à travers nous.
Et vous êtes d'accord avec Maggie Marin quand elle dit que le quotidien, c'est aussi quelque chose qui use et quelque chose, une chose contre laquelle il faut lutter?
Je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est un véritable travail que d'arriver à rester vivant. Mais pour moi, ça passe plutôt sous la forme d'un jeu que d'un travail. C'est-à-dire que je pense que le jeu, qui est une façon de prendre le contre-pied des rapports de force, est une belle façon de pouvoir être plus vivant. Pour moi, le joueur, c'est vraiment un modèle d'humanité.
Ce serait un joueur artisan.
On pourrait dire ça, ouais. Ouais, ouais. Travailler, être un plus grand joueur, voilà ce qui pourrait être mon projet au long cours.
Maggie Marin, vous avez travaillé avec elle. Quel souvenir vous gardez de ce travail ?
Alors pour moi, c'était le premier travail après des années d'école, et c'est un peu la suite de l'école. C'est-à-dire que c'est avec elle que j'ai, comme on pourrait dire, appris le métier, quoi. Tout ce qu'on peut pas apprendre à l'école et qui pourtant fait partie de l'apprentissage, donc la vie de tournée et puis la vie d'un lieu, puisque c'était le Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. Et puis c'était un travail qui me correspondait. Moins d'ailleurs par rapport à des questions de genre, quel type de travail, que dans les modalités même de pratique de ce travail, c'est-à-dire un travail permanent dans un lieu dédié à l'art vivant.
Un spectacle comme celui qui tombe, comment ça se répète, je me suis demandé en voyant.
Celui qui tombe, et comme l'ensemble de mes pièces, repose sur un dispositif physique. Là, en l'occurrence, un grand plateau en bois mis en mouvement par des mécanismes. Des mécanismes qui donnent à voir des différents phénomènes physiques. Et le travail qui est le nôtre sur ce plateau, c'est vraiment un travail d'interaction avec ces phénomènes. Donc, je demande aux artistes avec lesquels je travaille de développer une très très grande acuité, une écoute extrêmement fine des mouvements de ce plateau, pour que ce soit ces mouvements qui induisent le sens et non pas l'inverse. Donc c'est ça, c'est un travail de proprioception, donc un type d'écoute particulier, kinesthésique. Et puis c'est un travail qui requiert beaucoup de vigilance, parce que dans certains moments du spectacle, les mouvements générés peuvent être risqués. Par exemple, ce grand carré en bois se met à tourner très très vite. Donc là, se faire éjecter du plateau est exclu. Mais à un autre moment, ce grand plateau, qui fait quand même 2 tonnes, se met à se balancer. Donc on joue avec la prise de risque. Et moi, c'est une chose qui m'intéresse, parce que c'est des moments où on ne peut absolument pas faire semblant, on ne peut pas tricher. Ça requiert une très 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 grande écoute.
Vous diriez que oui, ce grand plateau de 6 mètres sur 6 en bois, donc qui pèse 2 tonnes, c'est l'acteur principal de ce spectacle. Enfin, pas l'acteur, c'est pas un bon terme. Je sais pas.
Non, c'est une bonne question. Je crois que le centre, c'est l'interaction. Le centre, c'est le lien. Je dirais pas que... J'aimerais même déjouer ce paradigme-là actif-passif, ce qui est donné à voir sur ce plateau, c'est qu'il a une incidence sur la petite humanité, et que la petite humanité a une incidence aussi sur cet espace. J'espère que ça peut résonner avec les questions écologiques qui nous agitent tous aujourd'hui. Ouais.
Dans le sens où ce serait pas que de la matière morte, ce plateau-là.
Oui, dans ce sens-là. Comment dire, dans le sens où, ouais, c'est un être en soi. Je crois qu'au fond, à mon avis, un des grands défis, c'est de cesser de voir la terre comme une ressource et comme un être, et plutôt comme un être en soi. Et on parle beaucoup de transition. Je dirais que peut-être que nous, les artistes, on a une responsabilité dans cette capacité peut-être à réenchanter nos relations à la Terre.
Donc ce serait plus, oui, une affaire de relation entre l'homme et son environnement, enfin de mettre au jour ces relations.
Ouais, je dirais ça. Et d'ailleurs, dans le spectacle, c'est pas rien de choisir comme médium, peut-être un art qui précisément n'en a pas de médium, de médiation, qui est vraiment l'art par excellence de la relation, l'art vivant. Rien n'existe sans la relation au spectateur. Et quand on crée un spectacle, on crée des rapports de tension et de détente avec le public. Je crois que c'est véritablement ça qu'on fait, même si on crée des décors, des dispositifs, des textes et tout ce qu'on veut. Tout n'existe que dans la relation.
Je citais Beckett en introduction de l'émission, Le Dépeupleur, publié en 1970, où il décrit cet espace-là. Cet espace-là avec des corps qui vont circuler à l'intérieur. Enfin, j'ai immédiatement pensé à Beckett en fait en voyant Celui qui tombe. Et Maggie Marin, qui a aussi travaillé sur Beckett. Quelle place il occupe, lui, dans votre travail ?
C'est quelqu'un qui a été important pour moi il y a très longtemps. Quand j'étais adolescent, j'ai été très très passionné par Beckett et par globalement l'absurde. C'est d'ailleurs ce sentiment vif que la vie n'avait pas de sens qui m'a peut-être conduit à l'art vivant et au jeu. D'ailleurs, Celui qui tombe pourrait faire penser, ce titre-là pourrait faire penser à un autre titre de pièce de Beckett, Tout ce qui tombe, mais c'est pas conscient. En tout cas, ce plateau est en quelque sorte décontextualisé, il semble flotter dans le vide. Et
il raconte pas d'histoire.
Ou alors, il raconte pas d'histoire, ou alors il raconte une multiplicité d'histoires. Disons qu'il se situe sur cette crête polysémique où des fictions peuvent affleurer dans l'action. Mais il ne part en effet pas d'un contexte historique. Ouais.
J'ai pensé à Beckett aussi dans la manière qu'il a, qu'il peut avoir parfois, d'épuiser les potentialités, c'est-à-dire d'épuiser l'espace. On a l'impression que les six figures, les six corps qui circulent sur le plateau en bois, ils épuisent un peu les possibilités de l'espace, c'est-à-dire ils vont circuler un peu partout, se placer dans les coins, jusqu'à ce qu'il y ait... vous faites des gestes avec vos mains. Jusqu'à ce que l'espace soit épuisé presque, d'une certaine manière.
Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, quand je préparais ce spectacle, j'en passe souvent par des maquettes. Et là, j'étais dans un émerveillement presque enfantin en jouant avec une surface et quelques figurines. Et je me disais en effet que le simple rapport de ces personnages, ces figurines avec cette surface, donc en changeant de configuration, pourrait raconter toutes les histoires. Et en effet, on fait jouer cette surface et ses rapports en quelque sorte sous tous les angles et dans toutes les dimensions. Donc en effet, il y a sans doute quelque chose de Beckett par là. Et aussi sans doute parce que la poétique développée par cette pièce, elle n'est pas abstraite. C'est véritablement de questions existentielles dont il s'agit. La consigne que je donnais aux artistes pendant la création, c'était à chaque fois qu'on mettait en mouvement le plateau d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire par exemple quand on faisait passer le plateau de l'horizontale à la verticale, ou alors quand on accélérait sa rotation, et s'amplifiait la force centrifuge, la consigne était toujours la même, c'était essayer de tenir debout. Et on sent bien à travers cette consigne, qui est à la fois très concrète, qu'il y a un ressort existentiel. Hein, comment vous, comment moi, comment nous pouvons continuer à tenir debout.
Parmi les mille fictions qui peuvent être évoquées quand on voit votre spectacle, il y en a une. Il y a un moment, je me suis dit, c'est les premiers hommes. Les six figures qu'on voit là, c'est un peu les premiers hommes, quoi. Ils sont, je sais pas, en état d'éveil, de curiosité. Je vous soumets ça.
Pourquoi pas? C'est très curieux. Alors, à la radio, faut rebondir très vite. mais c'est marrant que vous disiez ça aussi parce que au moment de la création, on a beaucoup lu des cosmogonies, des Jean-Pierre Vernant, des mythologies des origines de notre humanité. Mais je ne sais pas consciemment comment c'est ressorti dans le spectacle.
La rêverie n'est pas un abandon. La rêverie est active. La rêverie prépare des forces et des pensées. Pour entrer dans ces vues philosophiques, il suffit de donner à l'imagination humaine sa pleine valeur, sa valeur principielle. Trop souvent, l'imagination a été considérée comme une puissance secondaire, une occasion de dérèglement, un moyen d'évasion. On n'en fait pas assez nettement ce qu'elle est, la fonction dynamique majeure du psychisme humain. En homme normal, on aime à mettre au premier plan la fonction du réel. Mais comment un homme ferait-il une œuvre s'il ne s'exerce pas, s'il ne sent pas en lui ce qu'on pourrait appeler la fonction de possibilité? Pour agir, il faut d'abord imaginer. Il y a un sens à parler d'une fonction de l'irréel par laquelle l'homme méditant, le dormeur éveillé, s'en va en quête des possibilités d'une œuvre nouvelle. En lui s'éveille une conscience de poète. Le dormeur éveillé, s'il peut nous faire confidence du dynamisme de sa rêverie, s'il peut induire en nous l'activité de sa rêverie, répond vraiment à la définition que Paul Éluard donnait du poète. Le poète est celui qui inspire, celui qui nous donne l'exacte énergie de l'imagination. Il nous aide à satisfaire à ce besoin de poésie qui est au cœur de l'homme.
Johann Bourgeois, c'est la voix de Gaston Bachelard qu'on entend, un enregistrement qui date de 1954, qui parle de l'imagination. Quelle place elle occupe, de manière générale, dans votre travail, l'imagination? Par rapport à toute la dimension physique, et notamment, je pense, oui, à la formation que vous avez, donc qui vient du cirque, et où la physique, la dimension physique a une place importante. Ouais.
L'endroit où je situe mon théâtre, ou l'expression que je cherche, serait l'endroit de l'éloquence. C'est-à-dire cet endroit où ça parle sans qu'il y ait besoin de prononcer le moindre mot. Et pour ça, je crois à la puissance de certaines actions simplifiées. Tout à l'heure, je parlais de grandes actions universelles où affleurent des fictions, de polysémie, d'ouverture du sens. Je crois, pour moi, la poésie et l'imagination sont à ces endroits de prolifération de sens, hein, de sens multiples. Et je suis à la recherche d'un, j'espère que c'est pas trop prétentieux de dire ça, mais d'un langage universel. J'aime énormément quand à la suite d'une même action sur scène, un enfant peut rire aux éclats, quand une personne âgée serait effrayée, que les choses sont tout le temps perçues sous des angles différents. Et d'ailleurs, c'est ça qui retient mes compositions. C'est quand je suis impressionné véritablement par une image, quand je sens qu'elle est plus grande que moi, plus grande que mon intention. Et je cherche à stimuler cette faculté imaginante des spectateurs, ça c'est certain.
Ce serait, quand vous dites, quand vous utilisez le mot éloquence, qui est un mot assez fort, ce serait une éloquence sans langage, enfin, au sens sans langage articulé? Sans langue.
C'est l'éloquence des. Moi, celle que l'éloquence que je cherche est une éloquence qui passe par les phénomènes physiques, c'est-à-dire qui s'appuie sur des grands principes universels. Qu'on soit africain, enfant, vieillard, asiatique, on a tous à apporter son propre poids. Voilà, je travaille à partir de choses aussi élémentaires que celles-là.
Son propre poids dans l'existence.
Ben, dans tout ce que vous voulez. c'est ça qui m'intéresse, c'est véritablement quand ça peut s'ouvrir un petit peu. Ouais. Et pour que ça s'ouvre beaucoup, c'est ça que j'ai compris, c'est qu'il faut être très très précis pour capter des endroits comme ça de polysémie, d'ouverture du sens. Capter, hein, je dis bien capter, je dis pas produire. Il faut réussir à avoir fabriqué des systèmes de captation très précis. Pour moi, c'est ça le sens de la mise en scène. C'est comme un système de captation. J'avais entendu un jour une très très belle histoire. On les appelle les buveurs de brume. C'est ces gens qui habitent sur une île et qui n'ont pas d'eau potable et qui, pour survivre, ont créé ce moyen ingénieux de fixer le long des falaises des filets d'où se condense la brume qui se transforme en eau. Et c'est ça qui leur permet de survivre. Je ne sais pas s'ils existent, mais en tout cas, pour moi, toute création artistique serait un peu à l'image de ces filets. Capter quelque chose d'essentiel pour survivre et non pas le produire à l'image d'un alchimiste, par exemple.
D'un alchimiste génial ou ouais. Quelque chose de cet endroit-là.
Je crois que l'or est là et il s'agit de le capter.
Comment vous savez quand est-ce que vous avez capté quelque chose? Vous vous dites, là c'est bon, je tiens quelque chose.
Ah, c'est ce genre de connaissance intuitive, on ne peut jamais en être certain. Et si je veux, je disais l'or, mais ce n'est pas du tout l'or, ce dont il s'agit de capter, c'est précisément la vie. Donc c'est relié à l'éphémère. Et c'est la raison pour laquelle, même si l'on parle de répétition, au fond, il ne s'agit jamais de répéter, il s'agit de rejouer quelque chose. Interpréter, c'est pas répéter, c'est même pas effectuer une partition, c'est la jouer. S'il n'y a pas cette petite nuance, alors tout est perdu.
Quand vous utilisez le mot poids, on ne va pas s'empêcher de penser à un des thèmes centraux, enfin, ce qui n'est pas un thème d'ailleurs, qui est une force, une force qui joue dans le spectacle Celui qui tombe, c'est la gravité. Comment ça a évolué, vous, votre perception de la gravité avec ce spectacle-là depuis maintenant 5 ans ? La gravité au sens les corps qui tombent.
C'est tellement, comment dire, c'est tellement essentiel. Mais j'ai vu la chose apparaître, justement, petit à petit, année après année. J'ai pas tout de suite décidé, j'ai même pas décidé du tout. J'ai vu que mon travail gravitait autour de d'une recherche de suspension. Et j'ai compris que cette recherche de suspension, donc l'antithèse de la gravité, n'était même pas une thématique de travail, mais véritablement une conquête d'existence. J'ai compris qu'à un moment, qu'il n'y aurait pas d'autre perspective pour ma propre existence que de chercher de tout mon cœur, partout où je le pourrais, cette suspension. Et pour moi, les spectacles, mes spectacles, sont des repères pour m'orienter, des repères d'orientation, ni plus ni moins, pour atteindre, mais l'atteint-on jamais, ce fameux point de suspension.
Ce serait une exception, la suspension, par rapport à la gravité, à la pesanteur qui serait la règle?
Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est l'exception. C'est notre condition sur Terre, où qu'on soit, même ici, maintenant. Un certain nombre de rapports de force interagissent. Et chercher la suspension, c'est tenter d'équilibrer parfaitement les forces en présence. Ça a, sur un certain plan, à voir avec la question de la démocratie, je crois. Mais en fait, dans toutes les dimensions de l'existence, on peut chercher quelle serait la figure de la suspension.
En quoi ça aurait à voir avec la démocratie ?
Dans le sens où la démocratie est pour moi l'équilibrage des forces en présence, une façon d'équilibrer le pouvoir. Et c'est un exercice dynamique, jamais atteint, qui se pratique dans le mouvement, parfois le conflit, mais... ouais.
Pour revenir à celui qui tombe... Est-ce que vous diriez que la chute, vraiment très concrètement, la chute des corps, c'est-à-dire les moments où les corps tombent, ça construit une dynamique? Enfin, que la dramaturgie de ce spectacle-là, ce serait tomber, se relever, recommencer, quelque chose de cet ordre-là. Et on retombe un peu sur Beckett. Tomber, rater, rater mieux, rater encore.
J'aurais pas dit une dynamique, j'aurais dit plutôt une grammaire. Notre grammaire est celle des lois physiques. La gravité est l'un des phénomènes les plus élémentaires, mais on travaille sur d'autres variantes que la gravité, les phénomènes centrifuge, l'équilibre, l'inertie, le balancement, les phénomènes de frottement. Tout ça constitue une grammaire. Et c'est dans cette grammaire qu'on construit le langage du spectacle. J'aime bien imaginer qu'un spectacle s'écrit un peu comme de la musique, par intensité. La dramaturgie de mes spectacles ne repose pas sur une logique narrative, mais sur des intensités variées. Le rire, l'effroi, l'admiration, des choses comme ça. Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Johan Bourgeois.
C'est quelque chose qui me passionne d'imaginer un corps qui puisse à la fois créer du mouvement, de la vitesse, des formes, mais aussi du son et donc aussi du sens et aussi des époques, aussi des lieux. Mais pour l'instant, ça a beaucoup été, à part quelques exceptions, ça a beaucoup été une pratique soliste, solitaire. Et j'ai ce rêve persistant le fantasme d'une architecture de groupe où on pourrait être plusieurs sans être à l'unisson. Donc, en un sens, être ensemble sans faire la même chose. Et qui est une question récurrente dans toute la danse moderne et toute la danse contemporaine de plateau. En un sens, qu'est-ce que c'est que représenter une communauté sur scène? Et à quel destin elle se confronte entre celui de la hiérarchie, celui de l'unisson, celui du chaos.
Johan Bourgeois, là, actuellement, on est en train d'écouter un extrait sonore de Celui qui tombe. C'est un moment où le plateau carré en bois tourne sur lui-même et où les figures et les corps courent dessus, en rond. Et juste avant, c'était une archive de François Chéniaud, qu'on a reçue l'année dernière dans Par les temps qui courent, et qui parle de cette question de la communauté sur scène. Est-ce que ça a été formulé tel quel avec les artistes qu'on voit sur le plateau? C'est une question que vous leur avez formulée, la question de la communauté. Comment on va faire communauté sur ce plateau, vous les six?
Alors oui, ça s'est posé à l'origine du spectacle, puisque je cherchais à représenter une humanité minimale sur ce plateau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes six, pas cinq. C'est curieux, hein, ça tient parfois à pas grand-chose. Cinq, j'avais l'impression que ça restait comme un groupuscule. Six, il me semblait qu'il y avait quelque chose comme un collectif qui pouvait suggérer une humanité. Évidemment, nous aurions pu être beaucoup plus, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de chercher le principe actif de chaque chose, et donc représenter une humanité, représenter notre humanité. Et je crois que dans ce spectacle, et peut-être à travers tous les autres spectacles, j'essaye de donner à voir ma vision de notre humanité, et je nous vois comme traversés. Je ne nous vois pas comme étant des acteurs ou des danseurs, c'est-à-dire avec avec une sorte de puissance agissante. Je nous vois, c'est comme ça que je vois notre humanité, comme étant en lutte, comme devant s'accrocher, comme étant traversé par des grandes puissances qui nous dépassent et avec lesquelles nous devons faire avec. Et pour moi, c'est pas un détail, hein. C'est pour ça qu'on peut pas réduire ce grand plateau à un décor. C'est pas du tout un décor. J'ai pas trouvé de mot mieux, moins à la mode même, hein, que le mot dispositif physique. Nous sommes assujettis à cet élément. Et pour moi, c'est important parce que, à travers cette poétique qu'on développe des hommes et des femmes traversés par des phénomènes, je cherche peut-être à déjouer un anthropocentrisme. Nous avons beau savoir depuis maintenant des centaines et des milliers d'années que nous sommes pas au centre de l'univers, et pourtant très souvent je trouve que nous construisons des spectacles où l'homme est au centre et au centre de la question, les questions familiales, les questions. Et moi, je rêvais de créer un spectacle qui déjoue cet anthropocentrisme-là. Ouais.
C'est intéressant parce que quand on voit les interactions qui existent entre cette humanité minimale, enfin entre ces six figures, six personnages, il se passe jamais quelque chose entre eux sans que ce soit causé par le déplacement du plateau. Ouais. Comme si les questions entre les humains finalement n'étaient que la conséquence des forces, du mouvement, de la gravité et de tout ça.
Oui, les conséquences peuvent être multiples. Elles peuvent générer des formes solitaires, des séparations du groupe, des solidarités, des formes de solidarité ou de trahison, peu importe. Mais en effet, la cause, le moteur du mouvement semble les dépasser. Ouais.
Dans la voix de François Chéniaud, on entend aussi ce partage des disciplines. C'est-à-dire, il parle de danse, et c'est vrai que quand on voit celui qui tombe, on se dit c'est de la danse. C'est de l'acrobatie aussi, c'est du spectacle. Est-ce que dans votre pratique, c'est très clair que ces distinctions disciplinaires sont abolies?
Je sais pas trop, c'est marrant, c'est une question qui m'embête beaucoup, cette question disciplinaire. Je crois qu'elle est sans doute trop institutionnelle pour moi.
Donc c'est pas du tout dans votre tête.
Hein?
C'est pas du tout dans votre tête quand vous créez des spectacles.
C'est pas dans ma tête. Je dois être honnête, c'est pas une question qui met en mouvement mon travail. Et en même temps, je suis pétri de ces catégories disciplinaires. J'ai fait une formation, j'ai fait une école de cirque et je pratique toujours le cirque à haute dose au quotidien. Et je tire de cette discipline beaucoup d'inspiration. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une question qui me porte à créer. Mais peut-être que je m'inscris comme François Chéniaud dans une forme de décloisonnement disciplinaire. Peut-être à mon insu, parce que c'est pas une question qui me passionne tellement. Voilà.
Quelle place occupe le savoir-faire des artistes avec qui vous travaillez, et notamment du savoir-faire acrobatique, dans le cadre de Celui qui tombe?
Ah oui. Ben, j'ai toujours espéré pouvoir travailler avec tout le monde, quelle que soit son origine. Et d'ailleurs, il m'arrive régulièrement de faire des spectacles aussi avec des amateurs. Là, dans Celui qui tombe, il y a des gens qui ont fait un petit peu de théâtre, des gens qui sont plutôt issus de la danse et certains vraiment du cirque. Mais c'est pas véritablement ça qu'on convoque. Enfin, c'est quelque chose qui est un
c'est
petit
pas ce qu'on
peu
voit
entre
en
tout,
tout
ça.
Cas.
Non, non, puis c'est pas. Non, non, c'est véritablement pas ce qui est travaillé. D'ailleurs, c'est souvent une question qu'on me pose. Qu'est-ce qui fait que je choisis de travailler avec telle ou telle personne? C'est certainement pas pour son savoir-faire. Faire un spectacle, c'est une aventure de vie incroyable. C'est partager un moment d'intensité assez fou. Sans doute pour moi un des plus fous de ma vie. Et donc c'est pour des raisons assez mystérieuses, sans doute parce que j'ai envie d'approfondir, de rencontrer telle ou telle personne, parce que quelque chose chez elle ou chez lui me parle, mais certainement pas pour des questions de savoir-faire.
Est-ce qu'il y a une dimension politique dans la manière dont vous pouvez créer? Enfin, est-ce qu'il y a eu un travail politique aussi dans la création de cette communauté de 6 personnes sur le plateau en bois?
Oui, toujours. Alors, c'est marrant, c'est une injonction aussi tellement récurrente que de vouloir que l'art soit politique. Mais pourtant, je crois qu'il l'est intrinsèquement. C'est vrai que faire un spectacle, c'est avoir l'opportunité de mettre en place une petite vie idéale dans une échelle parfois circonscrite, quelques mois ou parfois moins. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça fait depuis 2014 que ce spectacle tourne, et les autres, c'est un peu pareil. Donc, c'est des aventures au long cours. Et je suis très attaché d'ailleurs par cette dimension temporelle, cet accompagnement, de pouvoir s'accompagner comme ça durant notre vie, les uns les autres. Moi, j'ai pas vraiment répondu à votre question.
Est-ce que, pour la formuler autrement, ce serait une micro-société, les 6 personnes qu'on voit sur le plateau?
Bah oui, certainement, qui une micro-société qui est régie par un certain nombre de règles. Alors là, en l'occurrence, ces règles sont des règles physiques. C'est comme des règles du jeu. C'est pas des comment dire. C'est un type de règles qui ne génère aucune solution, qui laisse entrevoir que des questions. Ouais.
On parlait de la chute tout à l'heure et de ceux qui tombent, enfin de la mécanique, un peu la mécanique de la chute. Alors je sais pas si en disant ça on spoil totalement le spectacle, mais on peut juste dire qu'à la fin il y a un corps qui ne se relève pas de la chute. Comment c'est apparu ça dans la création?
Presque comme tout par inadvertance. On a beau faire des projections, des maquettes. D'ailleurs, après toutes ces années, même si tout arrive presque par inadvertance, je me dis qu'il faut beaucoup préparer, beaucoup, beaucoup préparer, non pour que les choses qui arrivent durant la création soient celles qu'on a prévues, mais pour mesurer cet écart entre ce qu'on a prévu et ce qui advient. Ça, c'est très important pour moi. Pour prendre la mesure de ce qui advient. Et par exemple, une chose toute bête, quand je jouais avec cette surface, cette maquette de plateau, et que je la disposais dans l'espace, j'imaginais vraiment un espace métaphysique, un espace de tous les possibles imaginaires. Et la chose qui s'est passée la première fois qu'on est monté sur ce plateau a craqué. Il a fait un crack, un bruit de ce dont il est constitué, c'est-à-dire de bois et d'acier. Et ça, c'était pas prévu. Et quand on fait une création, on est tout le temps face à des choses imprévues. Et au fond, on a des tas de possibilités, mais on pourrait réduire toutes ces possibilités à deux perspectives. Soit on tente de réaliser ce qu'on a imaginé, ce qu'on a prévu, ce qu'on a conceptualisé. En l'occurrence, là, il craquait. Peut-être qu'en mettant la musique vraiment plus fort, on aurait pu ne pas entendre, rendre muet ce craquement. Soit, au contraire, on écoute. On essaie d'écouter plus finement ce qui se produit et qu'on n'avait pas prévu. Moi, c'est le choix que je fais, toujours. Et là, en l'occurrence, pour les histoires de craquement, on a mis des micros à l'intérieur de ce bois pour écouter mieux ce que ce plateau avait à nous dire quand on se déplace dessus. Ouais, je crois que tout est un peu à l'image de ça pendant une création. C'est ça qui est formidable. On apprend beaucoup, du coup.
C'est prendre ce qui advient.
Ouais, essayer d'être dans un état de disponibilité pour laisser advenir ce qui doit advenir. Là, je récite un peu les cours de taoïsme. C'est le Wu Wei, ça. J'ai un spectacle que j'avais intitulé comme ça, Wu Wei, qu'on peut traduire par non-agir, mais qui est dans notre langue qui a un peu trop signe de passivité, parce que non-agir, donc la méthode du taoïsme, c'est pas du tout une passivité, c'est vraiment un état de disponibilité pour laisser advenir ce qui doit advenir.
Pour capter encore.
Pour capter, exactement, ouais, c'est ça.
Mais pour revenir à ce personnage qui tombe et qui se relève pas, j'ai trouvé que c'était une définition de la mort extrêmement claire et pas forcément déprimante. C'est un corps qui tombe et qui se relève pas.
Ouais, d'ailleurs, ça résonne ce que vous dites là. Quand je jonglais, à l'époque où j'étais jongleur, où je passais des heures et des heures et des heures chaque jour à jongler, c'est-à-dire à lancer des balles en l'air, hein, puis à les rattraper, ou parfois à ne pas les rattraper, elles tombaient par terre. Et puis on se baisse, on reprend la balle et on la relance. Et ça des heures durant. Et parfois elles tombent. Et en une journée, peut-être qu'on a entendu tomber 100 fois, 200 fois, 300 fois une balle qui tombe au sol. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette insistance de la gravité produit quelque chose dans le cerveau qui est déprimant. je terminais toutes mes pratiques, tous mes exercices de jonglage déprimé à chaque fois. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai un peu arrêté le jonglage. Et un jour, en regardant une balle par terre, une énième balle tombée par terre, j'ai compris que si la chute était grave, c'est parce qu'elle conduisait tôt ou tard à l'immobilité. J'ai vu cette balle rouler à mes pieds, puis s'arrêter. Et là, en effet, c'était clair pour moi. Là, voilà.
À partir du moment où la plante de pied a décollé, où le dernier bout de peau du bout de l'orteil décolle, il y a quelque chose qui se suspend. Et c'est... Enfin, ça se sent, rien qu'en en parlant, là, j'en ai la mémoire physique, je le sens même dans le diaphragme, ça, quelque chose remonte, enfin, se suspend, et je crois, ouais, pour les gens qu'il y a autour aussi. Et c'est drôle, j'associe, moi, la suspension beaucoup à la question, enfin, pas au sens de la torture, mais à la question au sens de, d'un coup, quelque chose qui monte, qui est un peu élevé, comme quand on pose une question et qu'on n'a pas encore la réponse. Je sais pas si vous voyez, en termes de verticalité, une question, ça fait monter, une réponse, ça reconclut en faisant descendre. Et donc la suspension, pour moi, il y a l'idée de poser des questions, souvent silencieuses, mais c'est-à-dire de poser des questions dans le sens où on soulève, et donc il y a, je sais pas, les sens s'ouvrent, et on écoute, on regarde, on ne sait pas. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du ne pas savoir, qui fait que tout est un peu en l'air. Et quand on revient sur Terre, ça fait une forme de conclusion, on est de nouveau dans savoir. C'est une forme, quelque chose qui redescend.
Yoann Bourgeois, on écoute la voix de Chloé Molia, une archive qui date de 2017. Chloé Molia, donc, qui est acrobate et qui travaille beaucoup sur la suspension, sur un type de support particulier. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette association qu'elle fait entre la suspension et la question, par rapport à tout ce que vous disiez de la suspension tout à l'heure?
C'est très beau. Ça me fait immédiatement penser à ce juste avant le spectacle, sans lequel aucun spectacle n'est possible. Ce silence suspendu au moment où la salle s'éteint et où le spectacle va commencer. Sans ce silence-là, sans cette suspension-là collective, je crois qu'aucun spectacle n'est possible. Il existe donc un pacte implicite entre les spectateurs et les actants, ou les acteurs, appelons-les comme on veut. Ce pacte réclame du silence. Un silence qui relie magiquement des choses qui ne pouvaient pas être liées avant. Des êtres, des choses. Pour qu'il puisse se passer quelque chose, je crois que c'est ça la finalité de l'art vivant, qu'il puisse se passer quelque chose, qui n'est pas du tout égal à faire quelque chose, qu'il puisse se passer quelque chose. S'il vous plaît, faites qu'il puisse se passer quelque chose. J'ai l'impression que c'est la prière que fait chaque spectacle. On a besoin de cette suspension. Moi, j'ai souvent pensé que la suspension était à la croisée de deux problématiques fondamentales. Celle de la physique, la suspension comme absence de poids, dont parle Chloé. Et en même temps, la problématique temporelle, la suspension comme l'instant exact. Et que la croisée de ces deux paradigmes était comme une petite fenêtre ouverte sur l'éternité. Ça passe tellement vite, une vie. Je crois que mon désir de spectacle repose sur ce problème existentiel-là. Un peu d'éternité.
J'ai une question un peu compliquée. Ce serait quoi votre définition de l'éternité ?
Ce serait une façon de résister à la mort sans remettre en question le temps qui passe. C'est-à-dire que je ne confondrais pas du tout l'éternité de l'immortalité. Et je crois que si on observe l'histoire des arts, beaucoup d'arts, je pense que peut-être même tous ceux qui s'inscrivent Donc la plupart des arts, qui ne sont pas l'art vivant, ont ce postulat là. C'est-à-dire, les pyramides d'Égypte sont des magnifiques monuments qui semblent nous dire « je résiste à la mort, je résiste au temps qui passe ». Et je crois que quand on se fait de l'art vivant, on a cette conscience un peu trop forte que demain ou dans 10 000 ans, ce qui, à une certaine échelle, revient au même, tout ça ne sera plus que poussière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective ? Eh ben, je crois qu'on a ce désir presque désespéré d'être là, d'essayer d'être là. Je crois que l'éternité se trouve là.
Dans cet espace éphémère.
Ouais. Ouais, ouais,
et fait par des mortels.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est pas donné d'être là. C'est même une conquête extrêmement périlleuse. Je crois même qu'on n'est jamais tout à fait là. Donc c'est un travail.
Une des particularités de celui qui tombe aussi, et qui est une particularité assez simple, c'est que vous avez fait du plateau de théâtre, et c'est pour relier à la question de la suspension dans ce que disait Chloé Molia. Enfin, vous avez rendu mouvant et mobile ce qui a toujours été stable, c'est-à-dire le plateau de théâtre, et qui a été une des contraintes. Enfin, c'est même plus une contrainte tellement c'est là.
Ouais, c'est rigolo, ouais, ouais, ouais. Et pourtant même une cage de scène qui a l'air très statique, elle repose sur une terre en mouvement. Mais c'est vrai que quand on est spectateur, on voit des hommes et des femmes devant nous se mettre en mouvement dans un environnement fixe. Et ça, en soi déjà, ça raconte quelque chose. Et sans doute, c'est peut-être mon esprit enfantin qui est resté très fort. Moi, je trouvais que tout ça était trop immobile, trop. J'avais envie de faire valser vraiment au sens propre le plateau, le mettre en mouvement, quoi. D'ailleurs, j'ai failli appeler, faire un clin d'œil, appeler ce spectacle travail de plateau, quoi, comme si c'était vraiment ouais. Mais non, ouais.
Quel rapport au comment la pratique du risque dans ce spectacle-là a bougé pendant les 5 années où il a été où il a tourné? Le danger, le rapport au danger.
Je dirais que le rapport au risque dans ce spectacle n'est pas une fin, mais simplement un moyen. Qui nous permet de... Alors, il y a en effet des moments dans le spectacle où il y a des véritables prises de risque. Je citais tout à l'heure deux moments, quand le plateau tourne très vite ou quand il se balance. Là, en effet, il faut absolument être vigilant. Et quand bien même le spectacle tourne depuis toutes ces années, on ne peut pas baisser la vigilance. Hein, c'est toujours un endroit dangereux. Mais pour moi, c'est stratégique, c'est-à-dire dans le dialogue que je vais avoir avec les artistes, les interprètes au plateau, de leur demander d'être là, de ne pas leur laisser le choix en quelque sorte.
Et c'est une manière d'être là.
Ah oui, oui, ah oui, ça, c'est il y a. Il n'y a pas d'autres possibilités que de faire attention. Et en général, quand on fait très très attention sur scène, les spectateurs aussi font très attention. C'est drôle, cette perméabilité qu'il y a dans l'attention. Mais c'est, comment dire, ça nous a appris surtout que le moindre de nos gestes doit être à ce niveau-là. Et aujourd'hui, dans le spectacle, sans doute l'une des plus grandes prises de risque, c'est lorsque le groupe se met à chanter. Là, ils sont à peu près tous au plus loin de leur savoir-faire. Et le risque de dissonance, qui n'est pas un risque mortel, encore que, est très grand et donc réclame aussi une autre forme d'attention extrêmement fine, parce que il ne s'agit pas juste de chanter ensemble pour être ensemble et pour que ça sonne. Ça passe par tellement de subtilité. Donc je dirais que les moments de prise de risque physique du spectacle ont plutôt été presque des supports pédagogiques pour nous, pour être présents.
Est-ce que vous êtes attentif aux spectateurs dans la relation particulière que vous venez de décrire là depuis une heure, qui se crée pendant le spectacle, de suspension notamment, et de le silence au début du spectacle?
Eh bien oui, parce que tout est fait pour générer une relation vivante avec les spectateurs. Donc je pourrais dire que de même qu'un chanteur ne fait pas prend en compte l'espace dans lequel va résonner sa voix, le geste résonne de la même façon. Qu'on joue dans une petite salle, une grande salle, tout influe sur la relation avec les spectateurs. Et ça, on le sent tout de suite. On sent les qualités de silence quand le spectacle débute. Et elle nous oriente. C'est quelque chose qu'on conduit tout au long du spectacle, cette relation-là, pour que cette relation reste vivante. Ça se joue dans des temporalités, différents rythmes. Ouais.
Merci, Johan Bourgeois.
Merci à vous.
Celui qui tombe, votre spectacle, sera repris au 104 à Paris à partir de demain, 28 décembre, et jusqu'au 11 janvier. Et on peut annoncer qu'en mars, un nouveau spectacle, Hurricane.
Ouais, avec les danseurs de l'Opéra de Göteborg.
Merci. Ce soir au son, c'était Claire Levasseur, David Travailleur était à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Lou Quevauvillier, Lucie Riandet et Valentin Rémy. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, c'est le journal.